La famille, synonyme de bien-être, c'est un endroit où vous vous sentez chez vous, dans votre petit cocon. Une fois la porte fermée, vous vous retrouvez avec vos proches, ceux que vous aimez, prêts à déguster un bon repas en sécurité. Que nenni, vous en êtes sûr, ne croyez pas ça, car dans les histoires que je vais vous raconter, malheureusement, toutes ces familles, une fois chez elles en sécurité, un après-midi ou une nuit, vont vivre l'horreur, attachées, torturées. Elles vont vivre un véritable cauchemar avant d'être liquidées. Dans quatre maisons du comté de Pike, Ohio, vive la famille Roden. Alors on est en pleine nuit, ils dorment, ils sont tranquilles. Il faut savoir qu'ils sont 11 membres, 8 adultes et 3 enfants. Ils sont en train de dormir dans 4 maisons séparées, 3 mobilhomes et une caravane. Et puis, arrivons au lendemain matin. Alors je vous mets toute la pyramide de la famille pour que quand je vous raconte l'histoire, vous puissiez suivre. Je la remettrai plusieurs fois dans la vidéo car comme je vous l'ai dit, on est sur un dossier compliqué. Donc nous sommes le matin, Bobby Jo Manley, la sœur de Dana Roden, vient pour nourrir les animaux. Elle s'approche de la maison qui est un mobilhome et là elle découvre deux corps. Elle va tout de suite appeler le 911 pour déclarer ce qu'elle vient de voir. À l'arrivée de la police, elle leur dira qu'avant leur arrivée justement, elle a découvert deux autres corps dans la deuxième maison. Bon alors faut suivre, hein. Là on en est à quatre corps. Le frère de Dana, James Manley, arrivera pour rejoindre sa sœur qui est effondrée, effrayée. Il ira dans la troisième maison et malheureusement découvrira trois autres corps. Nous en sommes à 7. À 13h26, la police recevra un autre appel. Dans le village voisin, dans une caravane, on a trouvé un autre membre de la famille mort. Il faut savoir que dans cette famille, il y avait 3 enfants, un de 3 ans, un de 6 mois et un de seulement 4 jours. Ils ont été épargnés, mais détail horrible, la fillette de 4 jours avait été laissée à côté du corps de sa mère décédée. Moi je vous le dis, dans cette histoire, on passe même pas du paradis à l'enfer. C'est direct l'enfer, ça part mal dès le début. Prenons des nouvelles de l'enfant de 4 jours, puis de celui de 6 mois. Ils ont été placés sous tutelle. Quant à l'enfant de 3 ans, eh bien, elle est restée avec sa mère, car elle ne faisait pas partie de la fusillade. Rentrons plus dans les détails, quand est-ce que ce drame est arrivé? Eh bien, c'est arrivé dans la nuit du 21 au 22 avril 2016. Toutes les personnes appartiennent à la famille Roden. Elles ont été tuées par balle dans 4 maisons du comté de Pike, Ohio, près du village de Peebles. C'est à peu près à 80 km de grande ville appelée Columbus. La police pense que plus d'un tireur peut être responsable des meurtres, car 2 des scènes de crime étaient accessibles à pied. Bon alors, les enquêteurs, ils ont brièvement envisagé la possibilité d'un suicide collectif, hein, mais au vu des indices et de la distance entre les 3 premières maisons mobilhome et la caravane, ils ont tout de suite vu que c'était pas possible. Donc là, la police, elle a peur, car il reste quelques membres de la famille Roden vivants, et heureusement, et la police va leur dire de rester enfermés chez eux. D'ailleurs, ça ira même plus loin, parce que la police, ce soir-là, va donner un couvre-feu à toute la ville et le village voisin. Ils vont demander aux personnes de rester chez eux. L'enquête avance et les enquêteurs pensent que les personnes qui ont massacré toute cette famille connaissaient cette famille et que c'était un massacre préparé des mois à l'avance. Bon alors, on va faire une enquête hein, dans toutes ces maisons et on va trouver des choses pas claires. Hein. Notamment, on va trouver plein de poulaillers avec des coqs qui seraient préparés pour faire des combats. Mais quelle horreur! En plus, on va trouver des produits illicites, plus de 100 pieds d'herbe à fumer, si vous voyez ce que je veux dire. Tout de suite, la police va se demander si c'est en rapport avec le cartel de la drogue ou si c'est en rapport avec les combats de coq, mais ça va être très vite éliminé car ce n'est pas des assez gros vendeurs pour être menacés. Ce qui va alors suivre au niveau de l'enquête, sera la plus grande enquête jamais menée dans toute l'histoire de l'Ohio. Un groupe de travail d'enquête d'au moins 100 membres dirigé par le Bureau d'identification et d'enquête criminelle de l'Ohio a été constitué. Plus de 251 responsables de l'application des lois ont été impliqués dans l'enquête. Et les shérifs de 25 bureaux à travers l'Ohio ont proposé de fournir des ressources au comté de Pike. Alors il va y avoir plusieurs mandats, ils vont interroger plus de 50 personnes au sujet de cette affaire pour trouver des preuves et des indices. 79 éléments de preuve vont être examinés, y compris des menaces que la famille Roden avait reçues sur Facebook. Bon alors, pendant ce temps-là, c'est branle-bas de combat, hein, aussi bien dans la ville et le village que dans la police, tout le monde y va de son petit commentaire parce que tout le monde se connaissait et il y a beaucoup de gens par contre pour donner des détails ou des ressentis sur l'affaire aux policiers, ils ne veulent rien dire. Certains pour cette affaire vont faire preuve de charité. Un homme d'affaires de la région de Cincinnati a offert une récompense de $25,000 pour toute information menant à l'arrestation d'une personne impliquée dans l'affaire. Et le 28 avril, eh bien, il a retiré sa récompense. Bon, alors là, moi je vous le dis, je comprends pas. Hein, parce que moi, on m'a pas élevé comme ça. Hein. Donner ses données, reprendre ses volets. Bon, alors ça a dû faire de la peine. Parce qu'un fonds de soutien a réussi à lever $10,000 pour qui fournirait des indices ou des indications sur ce crime. Mais malheureusement, la police n'a pas communiqué assez vite pour parler de cette récompense. Elle ne le dira que 10 semaines plus tard. Rendez-vous compte, il y a une récompense de $10,000 à qui voudra bien parler. Et personne n'en parle, personne ne le sait, donc ça va pas délier les langues, hein, du coup, si personne le sait. La police continue son enquête à propos des produits illicites trouvés aux alentours des trois maisons. Ils vont même trouver une serre avec plus de 200 pieds, mais ils en sont sûrs, cela n'a rien à voir avec le massacre commis cette nuit-là. Il faut savoir que dans cette région, c'est monnaie courante de faire ce petit trafic de plantes, hein, de boutures. Hein. En 2010, 22 000 plants ont été saisis dans cette région. Le 26 avril, Dana et Leonard Roden ont déclaré qu'ils en étaient sûrs. Les meurtriers connaissaient leur famille. Eh bien oui, pour preuve, sur les terrains des trois maisons, il y avait des chiens de garde et les chiens de garde n'ont pas bougé. Puis le 3 mai, il y aura les funérailles de 6 des victimes. Beaucoup de monde va se déplacer pour leur rendre un dernier hommage. Les policiers seront là eux aussi pour observer. La police va aller saisir plusieurs véhicules de la famille Roden pour faire des expertises, pour faire des relevés de preuves et ils vont carrément remorquer les véhicules et les emmener sur un terrain à côté des scènes de crime qu'ils ont aménagé à cet effet. Ils y ont placé des tentes, des policiers, des scientifiques, branle-bas de combat. Au 12 mai, plus de 500 pièces avaient été soumises au cours de l'enquête et 128 entretiens avaient été menés. Dewine et le shérif du comté de Pine, Charles Reeder, ont annoncé l'intention de l'État de déplacer aussi les maisons mobiles et la caravane. C'est-à-dire qu'après avoir déplacé plusieurs véhicules à l'aide de remorques, ils vont carrément mettre les mobilhomes et la caravane sur des très grands camions pour les déplacer sur le site où il y a l'enquête. Et ça, c'est vraiment très rare lors d'une enquête. La raison, diront-ils, eh bien, c'est que c'est plus pratique d'avoir tout sur la main et surtout qu'ils veulent mettre en lieu sûr toutes ces maisons et toutes ces voitures au cas où il y aurait des preuves. Bon, on va pas embêter les policiers, hein, là ils sont au taquet du taquet, laissons-les collecter des preuves. Le 20 août, eh bien, ça sera confirmé aux informations. Les auteurs connaissaient bien les victimes, leur maison et les environs. Ils ont également annoncé que le département américain de la sécurité intérieure et d'autres agences fédérales se sont mis sur l'enquête. Alors là, tous les départements y sont, toutes les agences, ils travaillent tous dessus, je vous l'ai dit. Cette affaire va devenir la plus grosse de l'Ohio. Bon, cette enquête, elle se passait trop bien, hein, c'était trop beau pour être vrai. parce que malheureusement, il y a des journalistes qui vont se cacher dans les buissons et dans les arbres et qui vont réussir à attendre que les policiers ne fassent plus la sécurité devant et ils vont pouvoir rentrer dans les maisons, déplacer des objets et prendre des photos. Tout ça, ça va bien énerver la police. En plus, ils en ont marre parce qu'ils se rendent compte que les villageois ne veulent pas parler. Ils pensent qu'il y en a qui savent beaucoup plus de choses qu'ils ne veulent en dire et ils vont faire un flash local en demandant à la population de venir les voir s'ils savent quelque chose. Et là, le 12 mai 2017, une équipe du SWAT du bureau du shérif de comté de Franklin a perquisitionné une maison du comté de Pike. La police a initialement déclaré qu'elle recherchait des suspects dans les meurtres. Cependant, il a été précisé plus tard qu'il recherchait des preuves dans l'affaire et non des suspects. La police a également perquisitionné une maison détenue par un certain Edward Jack Wagner. Et là, il faut savoir que c'est l'ex-petite amie d'une des victimes, Anna Roden. D'ailleurs, ils avaient eu une petite fille ensemble. Faisons un point sur ce couple. Bon, déjà, ça part mal, hein, parce que Jack Wagner, lui, il est majeur et il va sortir avec Anna alors qu'elle n'a que 13 ans. Et elle va tomber enceinte à l'âge de 15 ans de leur petite fille Sophia. Bon alors, ils vont pas rester très longtemps ensemble, hein. Ça se passe super mal dans le couple. Du coup, Anna, elle va prendre sa petite fille et elle va retourner vivre dans sa famille. Mais là, malheureusement, en plus, elle ne veut jamais laisser la petite fille à son père, Jack. En plus, Jack, il va faire ses recherches. Il va réussir à pirater le compte Facebook d'Anna. Et dessus, il va trouver des messages entre elle et sa famille où elle dit texto qu'elle ne laisserait jamais la petite fille à la garde de son père. Alors là, ça le rend fou de rage. De grosses disputes vont éclater entre Anna et Jake au sujet de la garde, mais pas que. Il faut savoir qu'Anna a accouché d'un autre enfant, une petite fille Kyle, c'est celle qui avait 4 jours au moment des meurtres, et pendant un long moment, Jack pensait que c'était lui le père, il va demander des tests de paternité, et horreur, ce n'est pas lui le père, il y aurait donc eu, présumant, tromperie, oui, c'est logique. Alors là, c'est la furie de plus belle. Jack est fou de rage et les parents des deux côtés se mettent à se disputer. Bon alors, vous comprendrez que dans un tel contexte familial, ça ne va pas du tout et les esprits vont vite s'échauffer. Pendant ce temps-là, revenons à notre histoire et revenons à l'enquête. Le 13 novembre 2018, et j'ai envie de vous dire enfin, le procureur général de l'Ohio, Mike DeWine, a annoncé que George, Bill Wagner, Angela Wagner, George Wagner IV et Edward Jack Wagner suspects, ils sont tous des membres de la famille Wagner, c'est-à-dire de la famille de Jack. Il y a George, Bill Wagner III, 47 ans, qui est le père de Jack, Angela, 48 ans, qui est l'épouse de Bill George Wagner et qui est donc la mère de Jack. George Wagner, 4, 27 ans, qui est le fils de Bill et d'Angela, donc le frère de Jack. Et Edward, qui lui aussi s'appelle Jack. Pour la petite anecdote, Edward Jack Wagner, 26 ans, a été arrêté avec son frère lors d'un contrôle routier dans le comté de Ross. Bon alors, là on peut le dire, hein, toute cette famille, les Wagner, là, qui ont éliminé les 8 Rodens, hein, alors eux, ils ont lâché la rampe, hein, ils ont plus les pieds qui touchent le sol, ils ont pété un plomb. À quelle heure on élimine les gens quand il y a des disputes aussi grandes soient-elles? Enfin, en novembre 2018, les 4 membres au complet ont été arrêtés et inculpé des 8 meurtres. On a su par la suite que toute la famille Wagner planifiait tous ces meurtres depuis 3 mois. Moi, je les imagine chez eux, comme je vous le dis à chaque fois, ils sont sur le canapé, ils disent « Qu'est-ce que t'as fait à manger ce soir, chérie ?» Des pâtes, et sinon c'est toujours ok pour les Roden, on les élimine tous. Oui, allez, passons à table. Ça me sidère. En plus, et détail horrible, il faut savoir qu'ils n'avaient pas planifié de tuer les 8 personnes, mais qu'une fois qu'ils s'étaient rendus dans les maisons et qu'ils voyaient qu'il y avait d'autres personnes de la famille, bah ils ont éliminé tout le monde. Angela Wagner, la mère de Jack, était parfaitement au courant des plans. Elle a même acheté plusieurs articles utilisés pour faire toutes ces éliminations, y compris des brouilleurs de téléphone qui auraient empêché les victimes d'appeler à l'aide. Pendant cette nuit horrible, les Wagner ont pris les téléphones des 6 victimes ainsi qu'un appareil d'enregistrement et des caméras de surveillance. Les Wagner ont donc utilisé des armes à feu comme je vous l'ai dit précédemment, mais ils avaient 2 silencieux qu'ils ont fait eux-mêmes, ce qui leur permettait d'éliminer les victimes pendant leur sommeil en faisant le moins de bruit possible. D'ailleurs, la police retrouvera chez les Wagner les silencieux bricolés. La plupart des victimes sont mortes des balles reçues, mais elles avaient aussi plusieurs ecchymoses sur le corps. On a également retrouvé plusieurs douilles au domicile des Wagner. La police a aussi trouvé des chaussures qui correspondaient aux empreintes laissées chez les Roden. Rita Netcombe, 65 ans, la mère d'Angela Wagner, et Frederica Wagner, 76 ans, mère de Billy Wagner, sont accusées de parjure et d'entrave à la justice avec les enquêteurs. Elles ont essayé tout au long de l'affaire de les induire en erreur. Elles sont également accusées, les mémés, d'avoir falsifié des documents pour couvrir les crimes. L'État de l'Ohio a accepté, dans le cadre du plaidoyer de culpabilité, de ne pas demander la peine de mort pour Jack Edward, le fils, celui, vous savez, qui était avec Anna et ils avaient une petite fille. Pour son père et sa mère et son frère aîné, alors eux, ils risquent la réclusion à perpétuité. Et on est bien d'accord, faut pas qu'ils ressortent là la famille, hein, parce que eux, ils sont vraiment décapsulés de la canette. Dans le cadre d'un accord, vous vous en doutez, ils ont tous accepté de collaborer avec le procureur. Le 10 septembre 2021, Angela Wagner a plaidé coupable de complot en vue de commettre un meurtre aggravé, de plusieurs chefs de cambriolage aggravés, de falsification de preuves et d'autres accusations dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Les 8 autres chefs de meurtre aggravé ont été rejetés. L'affaire est tellement compliquée qu'elle est toujours en cours de jugement concernant les peines qu'ils vont recevoir. La famille Brown menait une vie simple et à l'ancienne dans une ferme de Pennsylvanie. Le père, Greg, ramenait le salaire à la maison en tant que directeur de l'architecture et de l'ingénierie, tandis que la mère, Maggie, s'occupait de la propriété, de leurs 3 enfants. Et 3 enfants, ça donne du boulot. Et elle préparait des bons petits plats pour toute sa famille. Megan était la plus jeune enfant et la fille d'ailleurs des Brown. Elle était la fierté de la famille. Une star de l'athlétisme médaillée qui courait pour l'université de l'État de Pennsylvanie. Et elle avait plus que son talent athlétique, elle était hyper intelligente et très jolie. Donc, vous l'imaginez bien, elle avait beaucoup de prétendants. Et l'un d'eux était Adam Matos. Mais qui est cet Adam Matos? Adam Matos était un DJ amateur avec qui Meghan va commencer à sortir quand ils étaient tous les deux au début de la vingtaine. Très vite, alors que cela n'était pas prévu, Meghan est enceinte de l'enfant d'Adam. Meghan, elle est ravie comme toute sa famille, prête à accueillir ce don du ciel. Après avoir donné naissance à un beau petit garçon qu'ils ont nommé Tristan, Meghan va vivre avec Adam pour le bien de leur enfant qui a besoin de ses deux parents. Et puis parce que malheureusement, le petit Tristan est autiste et il demande encore plus d'attention. Le petit Tristan fait la joie de toute sa famille et ils sont tous ravis de donner au petit bout de chou un bon foyer. Mais alors Adam, lui, il s'en tape la coquillette de la vie de famille. En effet, il va devenir impoli et arrogant avec la mère de Meghan, Maggie. Et Meghan et Adam, ils vont se disputer de plus en plus, vous vous en doutez, car cette situation est impossible. Lorsque tout d'un coup, le père de Meghan, Greg, va décider qu'au moment de prendre sa retraite, il veut déménager avec toute sa famille en Floride et réaliser son rêve, avoir une jolie maison dans la nature près de l'eau. Bien sûr, il compte aussi emmener Meghan, le père de son enfant et Tristan. Ah, mais Adam, lui, il n'est pas du tout ravi de devoir quitter la Pennsylvanie. Et la relation entre Meghan et Adam ne va faire que se détériorer de plus en plus. lorsque Greg, le père, va vraiment vendre leur maison actuelle et déménager en Floride avec sa famille, donc pour ce nouveau style de vie au naturel, vous allez le voir, tout ne va pas aller comme dans un long fleuve tranquille parce qu'on est malheureusement dans une DPAE. Les parents vont donc louer une maison au bord de l'eau à Hudson, au nord de Tampa, pendant la construction de la maison de leur rêve. Greg et Maggie, les parents, donc, ont leur fille, son petit garçon Tristan et le père du bébé, Adam, qui vivent tous ensemble dans cette nouvelle vie pleine de promesses de grande terre et donc de nature. Maggie, la grand-mère, qui, elle, n'est pas à la retraite, a trouvé un emploi de caissière. Megan, leur fille, va commencer un emploi de serveuse dans un bar local. Et Adam, lui, il travaille quelque temps dans une cuisine de restaurant jusqu'à ce qu'il soit licencié, ce qui va causer encore plus de conflits entre Megan et Adam parce que lui, bah, il fait pas plus d'efforts que ça pour trouver un job. Et là, Megan va se faire plein d'amis. Elle va commencer à sortir avec un nouveau groupe de personnes qu'elle avait rencontrées dans la région. C'est tout à fait normal parce que, comme je vous l'ai dit, elle était drôle, souriante, jolie et elle n'avait aucun mal à se faire de nouveaux amis. Laissant Adam à la maison pour garder Tristan puisqu'il ne travaille plus, et là il va devenir jaloux. Mais pourquoi a-t-elle des amis? Que fait-elle avec ses amis? Pourquoi sort-elle avec ses amis? Cette jalousie bouillonnante d'Adam va mener finalement à une violente confrontation un petit matin lorsque Megan franchit la porte à l'aube après une soirée avec son groupe d'amis en 2014. Au 911 qu'elle appellera, elle dira
« Je viens de rentrer à la maison et le père de mon fils a pris un couteau qu'il m'a mis sous la gorge. Là, il m'a entaillé la main, je saigne de partout et mon fils hurle, il est en larmes. Mais faites venir quelqu'un, il essaye de me tuer. »
Megan pleure et semble avoir peur pour sa vie alors qu'elle essaie de réconforter son petit garçon Tristan qui pleure. La police arrive à la maison pour trouver Megan désemparée et saignant des blessures à la main qu'elle avait subies. Lui, Adam, il s'est sauvé après que Megan ait appelé le 911 pour ne pas être confrontée à la police. Megan a dit à la police qu'elle avait eu peur qu'il revienne encore plus en colère que jamais. Mais les jours vont s'écouler sans aucun autre problème et tant mieux, j'ai envie de vous dire, pas d'Adam à l'horizon. Donc silence radio, et ce silence ne va pas vous plaire. Car un parent va appeler la police pour signaler que personne n'avait pu joindre, ni par SMS ou par téléphone, aucun des membres de la famille. Ni les grands-parents, ni Megan, ni Tristan, ni Adam. Mais que se passe-t-il? Cela fait 6 jours exactement qu'on n'a plus de nouvelles. Et lorsque les policiers se présentent à leur location, personne ne semble être à la maison. Et là, c'est horrible. Les policiers sentent de dehors une odeur nauséabonde et malheureusement trop familière de la mort et des corps en décomposition. Comme une porte est restée ouverte, ils sont entrés par la porte ouverte menant au garage où est garée la camionnette de la famille. Ils voient immédiatement des couvertures sur le sol derrière la camionnette. Il y a du sang partout, sur le sol, sur les murs, sur les couvertures. C'est horrible. Peu après, au même moment, un policier vétéran fait une sombre découverte à 2 pas de là, après avoir également remarqué cette forte odeur près d'une zone boisée qu'il venait de traverser à 2 pas de la maison. Il trouve quelque chose de pire qu'ils n'ont jamais vu au cours de toutes ces années dans la police. Un policier dira
« Je pouvais le sentir et je pouvais voir qu'il y avait un tas de corps plus loin. »
Malheureusement, tous ces corps étaient décomposés au-delà de toute reconnaissance visuelle. Un policier dira
« Nous ne savions pas exactement qui et combien de corps se trouvaient dans cette pile de chair que nous avions vue. Vous savez, nous avions une maison avec plusieurs personnes portées disparues et maintenant nous avions un tas de corps devant nous. »
Alors que le médecin légiste tente d'identifier les victimes, des détectives se précipitent dans la maison Brown avec des experts médico-légaux et découvrent une scène choquante. L'endroit, lorsqu'ils vont l'asperger de luminol, devient entièrement fluorescent. Ce qui signifie qu'il y a du sang absolument partout dans la maison, des traînées sur le sol, sur les meubles, sur les murs. C'est horrible. Il y a donc une traînée de sang qui s'étend dans toute la maison, des signes que le tueur a essayé d'en nettoyer une partie et d'autres indices de l'horreur qui s'est produite. Mais certaines des meilleures preuves vont se trouver dans la camionnette garée dans le garage. Elle est elle aussi immaculée de taches de sang. Un policier dira
« Nous savions qu'il y avait eu des personnes mortes et en décomposition à l'intérieur de cette camionnette. Dans la camionnette, il y avait des indications qu'elle se trouvait là, y compris malheureusement du sang et des asticots. Nous avons également trouvé une pelle à l'arrière de cette dite camionnette. »
Les détectives pensent que le tueur avait utilisé la pelle pour tenter d'enterrer les corps dans la cour. Sur le côté de la maison, il y avait une zone fraîchement creusée, mais dans cette zone, il n'y avait rien. Ainsi, selon les enquêteurs, le meurtrier avait chargé les corps à l'arrière de la camionnette dans l'idée de les déplacer finalement dans le sous-bois à côté de la maison. Et là, vous l'imaginez, toute la ville, les amis et les parents sont sous le choc, ils sont horrifiés. Alors que le médecin légiste parcourt le monticule de chair et d'os pour identifier exactement qui est et quels membres de la famille sont morts, les détectives tentent de trouver qui est le meurtrier. Bien sûr, la principale personne d'intérêt est Adam Matos. Un policier dira
« Nous savions qu'Adam était la personne qui vivait dans cette maison. Nous savions qu'Adam et Megan avaient de sérieux problèmes de couple. »
Mais Adam avait fui la maison lorsque Megan avait appelé le 911, moins de 24 heures avant qu'elle et sa famille soient horriblement assassinées. Mais pour autant, les détectives se demandent si Adam Matos n'était pas dans ce tas de corps en décomposition, car tout est possible et il ne faut éloigner aucune possibilité, celle d'un autre tueur. Alors, ils tournent leur attention immédiate vers un autre suspect possible, Nicolas Léonard, un nouvel homme que Megan avait rencontré après avoir déménagé de Floride. Les détectives soupçonnent déjà que la relation de Nick Léonard avec Megan pouvait s'être transformée en un triangle amoureux avec Adam, ce qui aurait pu déclencher les meurtres et faire que ce Nick veuille tuer toute la famille et Adam par jalousie pour n'avoir Megan qu'à lui. Megan n'avait apparemment pas parlé à ses amis et à sa famille de Nick Léonard, un charpentier paysagiste. Mais lui, il avait tout dit à sa famille à propos de Megan, disant à quel point il était éperdument amoureux d'elle. Nick a dit à ses parents que lui et Megan gardaient leur romance silencieuse jusqu'à ce qu'Adam quitte la maison. Il a dit à ses parents qu'Adam avait découvert qu'il voyait Megan et qu'il était très très jaloux. Pourtant, Nick et Megan avaient continué à se voir discrètement. Les détectives ont appris que Nick avait en fait été parmi les amis avec lesquels Megan était sortie la nuit, où elle était arrivée à la maison vers l'aube, et précipitant Adam en folle jalousie, ce qui aura conduit à l'appel au 911. Et là, bizarrement, la famille de Nick Léonard dira qu'il n'avait plus de nouvelles de lui depuis cette nuit-là. Mais Nick Léonard va être écarté comme suspect dans le meurtre de la famille Brown et de la façon la plus horrible qui soit, lorsque le médecin légiste l'identifie dans cette pile de corps décomposés. Léonard est malheureusement l'un d'entre eux. Le médecin légiste a identifié l'une des autres victimes comme Megan, puis son père Greg, puis sa mère Maggie. Tous massacrés dans une horreur indescriptible qui, comme je vous l'ai dit, entra la ville, les amis et la famille. La seule petite pitié, si je puis dire, qu'Adam Matos aura est pour leur fils Tristan. Il n'est pas dans cet amas de corps. Il semble être toujours en vie. Les détectives pensent qu'il est probable qu'il soit avec son père. Il n'y a plus une minute à perdre. Il faut les retrouver. La police n'a pas été en mesure de retrouver Adam depuis qu'il a fui la maison des Brown la nuit où Megan a appelé le 911. Mais maintenant, ils sont sur le point d'avoir quelques coups de pouce de la chance. Les enquêteurs vont finalement localiser Adam une semaine après, le traçant jusqu'à un hôtel où ils vont le trouver enfermé avec son petit garçon. Et bien sûr, ce n'est pas l'ampoule qui brille le plus dans le chandelier, ce Adam, parce que figurez-vous qu'à l'hôtel, il s'était enregistré sous le nom de Adam Matos, ce qui fait qu'on l'a trouvé direct. Les autorités disent que lorsqu'elles ont récupéré Tristan, le petit de 4 ans, il était en état de choc et ne parlait même pas à la police. Adam, lui, a été placé en garde à vue. Il était calme, il ne s'est pas débattu. Les policiers vont la jouer fine et ne vont pas lui dire qu'ils sont au courant du massacre, espérant qu'ils pourront faire ainsi mieux parler à Adam. Au lieu de cela, les policiers lui disent qu'ils l'ont arrêté à cause de l'appel au 911 une semaine avant. Au poste de police, les détectives demandent astucieusement à Adam qui appelait pour s'occuper de Tristan. Mais lui ne sait pas. Il propose la grand-mère, il dit peut-être. Il propose la mère, il dit essayez de l'appeler. En fait, il fait comme si de rien n'était. Ils vont lui demander pourquoi il s'entendait mal avec la mère de son enfant et lui dira qu'il y avait trop de drames. Mais Adam nie avoir attaqué Megan cette nuit-là quand elle a appelé le 911. Ils vont lui demander s'il pense qu'elle avait un autre homme dans sa vie et lui dira qu'il ne sait pas, mais il admet qu'ils se sont disputés après que Megan soit arrivée à la maison cette nuit-là. Il finira en disant que la mère de Megan lui avait dit de partir cette nuit-là et qu'il est parti sans rien faire. Ce n'est que lorsqu'il va être enfermé en prison pour violence domestique que Adam va apprendre que les détectives l'ont trompé et en fait qu'ils ont retrouvé tous les corps de la famille Brown. Dans une interview à un journal, Adam Matos nie les avoir tués. Avec tous les détectives présents et la police, Adam va lancer une bombe, pointant du doigt une ex-petite amie jalouse du nouveau petit ami de Megan, Nick Leonard. Les policiers vont être distraits par cette info parce qu'ils veulent vérifier toutes les pistes. Cette ex-petite amie de Nick Leonard traquerait jalousement Nick depuis des années et aurait même menacé Megan. Puis les détectives apprennent qu'elle avait elle aussi un alibi en béton et on revient sur Adam Matos. Parlons du petit garçon. Tristan, lui, il est traumatisé. Rappelons qu'il avait 4 ans et qu'il a été témoin du massacre sanglant. Mais heureusement, tout doucement, il va commencer à s'ouvrir aux enquêteurs. Il dira avoir entendu le coup de feu qui a tué sa mère et il aurait dit « Papa a tué maman » en pointant la photo de son père. Avec cela, les détectives et le procureur Brian Sarabia ont un témoin oculaire pour corroborer leurs conclusions selon lesquelles Adam Matos est le meurtrier. Ils sont capables de reconstituer coup par coup leur scénario de ce qui s'est passé le jour du massacre. Nous allons commencer cette chronologie et je vais vous expliquer point par point ce qui s'est passé cette nuit-là. Megan va appeler le 911. Peu de temps après cet appel, Adam était en rage et les détectives ont appris qu'il avait bombardé Megan de plus d'une centaine d'appels et de SMS menaçants dans les 12 heures qui ont suivi l'appel au 911. Il menaçait de revenir et de l'achever, en gros de la tuer. Megan Brown était terrifiée, elle avait appelé son nouveau petit ami Nick qui s'est précipité chez elle avec une arme pour la protéger. Les enquêteurs disent que Adam Matos est revenu pour jalonner l'endroit, il était dehors discret et les observait. En début de soirée, Nick est arrivé pour rejoindre Megan qui était avec Tristan et le père Greg. Il va attendre patiemment que toute la famille soit réunie, tapis dans l'ombre parce qu'il manque la grand-mère. Et là, Adam Matos va commencer sa tuerie lorsque la grand-mère Maggie rentre à la maison après son quart de nuit vers minuit. Donc, scrollez 2-3 minutes plus loin parce que ça va être vraiment gore et dur à supporter, donc âme sensible, s'abstenir. Maggie la mère arrive dans sa camionnette, elle sort de la camionnette et il l'attaque dans le garage. Il la frappe violemment avec un marteau. Il l'attache et attrape un sac en plastique. Il va mettre le sac sur sa tête, essayant de s'assurer qu'elle allait mourir. Et croyez-moi, cela prend du temps d'asphyxier quelqu'un. Les médecins légistes diront entre 5 à 7 minutes où il lui a fait endurer ce supplice. Puis il va monter à l'étage, toujours armé du marteau. Il va se diriger vers la chambre de Megan. Il la trouve là-bas avec son nouvel amoureux, Nick. Il va commencer par attaquer Nick. Nick essaiera de se défendre et de prendre son arme. Mais il ne sera pas assez rapide. Le médecin légiste a indiqué qu'il s'agirait de 21 coups de marteau et de couteau. Adam Matos a maintenant tué Nick et il lui a pris son arme à feu. Il s'en prend ensuite à Megan qui a couru avec son fils Tristan dans la chambre principale pour se réfugier chez son père Greg. Son père Greg, lui, c'est un chasseur. Il a des armes dans la maison. Il y aura des indications qu'il était près de son placard à armes essayant d'en attraper une, mais il va être abattu sans pouvoir la charger. Puis il va s'occuper de Megan, il va lui tirer une seule fois dans le visage, cette seule fois suffira pour la tuer. Les détectives ont appris que Adam s'est ensuite réinstallé dans la maison de l'horreur avec son fils pendant plusieurs jours. Tranquille mimille, il va en profiter pour vivre sa meilleure vie dans la maison avec son fils traumatisé, mais ça m'énerve, déplacer les corps devant son fils et profiter des courses de la famille et manger à son aise, prendre des douches, c'est horrible. En plus de ça, Adam va publier une annonce sur Craigslist pour vendre toutes leurs affaires, y compris même les chiens qu'ils avaient élevés. Il les vendra $50. Et là, allons-y, il va se faire livrer une pizza sur les lieux du meurtre. Alors déjà, pour son fils, c'est l'horreur totale. Mais imaginez ce pauvre petit livreur de pizza qui fait son petit job pour gagner sa vie et qui apprendra plus tard qu'il a livré une pizza dans la maison de l'horreur. Puis Adam va prendre contact avec les voisins leur disant que la famille était partie en Virginie-Occidentale pour un voyage. Jusqu'à ce que les autorités trouvent les corps qu'il avait finalement jetés dans les bois. Et ce qui est totalement dingue, c'est que quand la police elle est venue ce jour-là pour prendre des nouvelles de la famille qui n'en donnait plus, lui, le Adam, il était encore là. Il va s'échapper par l'arrière de la maison. Quand les autorités sont venues frapper à la porte, Adam était encore là avec son fils. Il profitait de la maison et des courses de la famille. Il a entendu la police. Il est parti avec son fils à l'arrière-cour des voisins. Il a volé un canoë, a pagayé de l'autre côté et a sauté dans un taxi qui l'a emmené à Tampa, à environ une heure au sud de la maison, et c'est là qu'il trouvera l'hôtel. Une semaine et demie après avoir été capturé dans cet hôtel, Adam Matos a été accusé du meurtre au premier degré de la famille Brown et de Nick Leonard. Adam Matos fait face à 4 chefs d'accusation de meurtre et à la peine de mort lors de son procès. Et lui, il va prendre la parole pour sa défense. Il va choquer une salle d'audience bondée en affirmant qu'il a tué tout le monde en état de légitime défense après avoir été attaqué par toute la famille. Brian Sarabia, le détective, dira que sa version de l'histoire est littéralement incroyable. Il dira
« Les circonstances qu'il a décrites et la façon dont il a décrit ses actions ne correspondaient pas. »
Adam Matos n'a pu expliquer de manière convaincante pourquoi il n'a jamais appelé la police s'il se défendait. Il dira qu'il n'avait plus de téléphone à ce moment-là. Adam Matos a également eu du mal à expliquer pourquoi il avait jeté les armes dans le canal à l'arrière de la maison. Il dira qu'il ne voulait pas qu'elles soient récupérées par n'importe qui. Le jury va rendre son verdict. Adam Matos a été reconnu coupable des meurtres de Greg Brown, Maggie Brown, Megan Brown et Nicolas Leonard. Mais il va avoir droit à un petit répit parce que seulement 11 des 12 jurés vote pour son exécution à mort. Cela signifie que s'il y avait une seule personne dans le jury qui avait ressenti suffisamment d'empathie et de miséricorde pour lui, il ne pouvait pas avoir la peine de mort. Le juge exprimera son désaccord. Puis Adam finira par dire
« Je voudrais juste m'excuser auprès de la famille et des victimes. »
Et le juge va infliger à Adam Matos la peine la plus sévère autorisée par la loi. Prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et perpète, c'est perpète. Mais les mots du juge les plus émouvants sont réservés aux plus petits, aux plus innocents survivants de cette horreur, Tristan, 4 ans, qui est maintenant élevé par la famille de sa défunte grand-mère. Il dira...
Il grandira sans père parce qu'il sait que son père a assassiné sa mère et ses grands-parents.
Une partie de l'accord conclu exige que la famille de Tristan envoie une photo du garçon à Adam Matos tous les ans en prison jusqu'à ce que Tristan ait 12 ans. Commençons avec Chris le père. Il est né le 20 mars 1977 aux États-Unis de Ron Coleman le père et Connie Coleman la mère. Il a grandi dans une famille très chrétienne. L'église a donc été toujours très présente au cœur de la famille de Chris Coleman. Ses parents, Connie et Ron, sont copasteurs de la Grace Church à Chester. Lui, après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il s'est inscrit chez les Marines. En mai 1999, alors qu'il assistait à un séminaire de formation à la base aérienne Lockland à San Antonio, il va rencontrer sa future épouse, Sherry.
Ils sont sortis ensemble pendant quelques mois avant d'échanger leurs vœux de mariage. Plus tard, il a été embauché par Joyce Meyer dans le cadre de son équipe de sécurité. Il gravit rapidement les échelons et est nommé garde du corps principal de Joyce Meyer, qui est une célèbre télévangéliste chrétienne. Donc vous voyez, on reste toujours dans le milieu chrétien. D'ailleurs, cette fameuse Joyce Meyer, sa patronne, est une vieille amie des parents, les Coleman, et elle connaissait Chris depuis qu'il était petit garçon. Même si son mariage avec Sherry était plein de hauts et de bas, lui, il n'était jamais à la maison en raison de la nature de son travail qui était garde du corps de Joyce Meyer. Il la suivait partout, donc H24, 24 heures sur 24, et il n'était pas chez lui puisqu'il était avec sa patronne en train de la protéger. Donc, comme je viens de vous le dire, il passait la plupart de son temps à voyager avec Joyce Meyer. Et le couple a eu de la chance car il va avoir deux adorables fils. Ils ont accueilli leur premier enfant, Garrett Coleman, le 20 avril 1998. Moins de deux ans plus tard, la famille a eu la chance d'avoir un deuxième bébé, Gavin Coleman, né en 2000. Cette famille donc de quatre personnes vivait dans un immeuble de deux étages à Columbia, dans l'Illinois, et pour tout le monde, ils semblaient extrêmement heureux. Pourtant, Chris va recevoir des emails effrayants et menaçants qui disaient
« Dites à Joyce d'arrêter de prêcher, votre patronne ou la famille de Chris mourra, je les tuerai tous pendant qu'ils dorment. »
Mais quelle horreur de recevoir des emails comme ça! Mais l'inquiétude va grandir quand une de ces menaces va être déposée dans sa boîte aux lettres à l'extérieur de la maison Coleman. Tout le monde a commencé à s'inquiéter parce que c'est une chose de recevoir des emails, mais c'en est une autre d'avoir des lettres de menace chez soi, à son adresse, dans sa boîte aux lettres. La mère de Chris Connie dit que Sherry avait très peur, car ses lettres donc avaient été livrées, en plus quand son mari voyageait avec Joyce Meyer à Hawaï. À son retour, le mari va déposer plainte auprès de la police. Mais qui peut en vouloir à cette famille et pourquoi ? Heureusement, leur voisin d'en face, Monsieur Barlow, est un détective de police. Et lui, il va retourner sa caméra vers la maison des Coleman. Mais malheureusement, nous sommes dans une DPAE. Et vous vous en doutez, cette histoire va très mal finir. Nous sommes le matin. Chris va se réveiller très tôt. Il va au gymnase pour sa routine d'entraînement. Nous sommes le 5 mai 2009. Il est dans sa salle de sport. Et là, il va commencer à s'inquiéter. En effet, il a envoyé plusieurs SMS à sa femme, elle ne répond pas. Il a téléphoné, elle ne répond pas. À 6h43, il a appelé le fameux détective, son voisin, pour lui demander de vérifier Sherry et les enfants car personne ne répond au téléphone. Après avoir reçu l'appel de Chris, le détective va foncer chez la voisine, ça ne répond pas. Il va donc appeler ses collègues policiers. Les policiers vont se déplacer jusqu'à la maison des Coleman. Ils vont sonner, frapper à la porte, mais aucune réponse. Les agents décident d'entrer par la fenêtre. Et là, vision d'épouvante. Ils vont voir des inscriptions de peinture rouge aérosol sur les murs. Ces inscriptions sont terrifiantes. Mais le pire est à venir, car la scène qui suit est intolérable pour les policiers. Sherry et ses enfants sont tous morts, tous les trois sur leur lit, étranglés. Sherry Coleman, la mère, avait trois marques de ligature défensive qui indiquaient qu'elle s'était débattue, défendue et battue durement. Elle avait aussi un œil au beurre noir. Puis Chris Coleman est arrivé sur les lieux, mais il a été empêché d'entrer dans la maison. Après avoir été informé de la mort de sa femme et de ses enfants, il versera quelques larmes, mais qui, au dire des policiers, sonnait fausse. Il n'a jamais demandé de détails sur le meurtre. La police a également remarqué qu'il essayait de couvrir des égratignures sur son bras en frappant son bras sur la civière de l'ambulance, énervé par ce qui venait de se passer. À noter que Chris serait arrivé ce matin-là, 5 minutes avant la police, et serait rentré dans la maison. Immédiatement, il est devenu le principal suspect des meurtres de la famille Coleman. Il va être arrêté chez ses parents. Son père criera qu'il ne peut pas avoir fait quelque chose dans cette histoire et les voisins seront choqués de voir le père et le fils, le père crier et le fils être emmené par les policiers. Chris Coleman va être interrogé. Amené au poste, il dira que le soir, il s'est endormi dans les bras de sa femme et qu'elle était bien vivante. Et que quand le lendemain, il est parti à la gym, elle était vivante. Il dira aussi au policier qu'il n'avait que sa femme dans sa vie et qu'il n'avait pas de liaison. Sauf que pendant ce temps, Tara, une jeune femme, est interrogée par la police et elle va tout raconter. Le policier commence avec cette question.
Depuis combien de temps êtes-vous en couple avec Chris ?
Et Tara répondra.
Depuis fin novembre, début décembre.
Où avez-vous été en vacances et en week-end ensemble ?
Phoenix et Hawaï, Maui.
Qu'est-ce qu'il dit à sa femme quand il part ?
Il dit juste qu'il va travailler.
Donc sa femme chérie n'est pas au courant de votre liaison ?
Si, je pense qu'elle s'en doutait. D'ailleurs, pour moi, pour me rassurer, il prenait toujours des photos avant d'aller dormir pour me montrer qu'il dormait tout seul et qu'il ne couchait pas avec elle.
Vous voyez maintenant, à nous, il a dit tout le contraire. Il nous a dit que c'était un mariage tout rose, tout parfait.
Ah non, c'est faux. Ils ne s'embrassent plus.
Vous y croyez beaucoup à cet amour. Vous êtes même allé visiter des sites sur internet de mariage et vous avez regardé des bagues.
J'ai regardé des trucs, mais vous savez, avec son travail, ce n'est pas facile. Il ne peut vivre avec une femme que s'il est marié.
Quant à lui, Christ a insisté sur le fait que sa femme et ses enfants étaient bien vivants lorsqu'il est parti pour le gymnase. Mais les rapports médicaux indiquaient que les trois étaient morts à 5h30 du matin, à peu près au même moment où Chris aurait quitté la maison. Puis tout va se précipiter, car toutes les preuves, une à une, accusent Chris. Les images de vidéosurveillance de la maison du voisin ont montré que personne d'autre n'était entré ou sorti de la maison après son départ au gymnase. Il n'y avait aucun autre ADN sur les corps à part le sien. Un relevé de crédit a révélé que Chris avait acheté de la peinture aérosol rouge, la même utilisée dans la maison. Les emails menaçants remontent jusqu'à un compte que Chris avait créé 6 mois avant le drame. Les trois sont morts entre 3 et 5h30 du matin alors que Chris était encore à la maison. Les gros mots pulvérisés sur les murs et les couvertures correspondaient à l'écriture de Chris. Bon là, on a affaire à un très bon connard qui n'a pas inventé l'eau chaude ni le fil à nouer le beurre. Je suis horrifiée. Le motif du meurtre du trio était la liaison de Chris avec une femme connue donc sous le nom de Tara. Allez, lui aussi, il voulait le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Lors de l'interrogatoire, la police a découvert donc cette fameuse liaison. Et comme il voyageait tout le temps, son travail lui permettait de mener cette double vie. Il la vivait depuis 2008 avec Tara Lins, barman et serveuse. Il s'était rencontré par l'intermédiaire de Sherry, puisque figurez-vous, Tara était l'amie d'enfance de Sherry, la femme de Chris. Tara et lui avaient donc une liaison. Tara et lui s'envoyaient des selfies, des vidéos sexy et s'écrivaient tout le temps. Ils passent des vacances ensemble et des week-ends romantiques avec l'excuse du travail de Chris. Et comble du comble, Chris avait donné à Tara une bague de promesse, lui promettant donc un futur mariage. J'ai une question à vous poser. Tous les Chris, là, Chris Watt et ce Chris Coleman, ils sont tous comme ça ? Et comme il était hors de question qu'il divorce de Sherry, puisque sa patronne, Joss Meyer, avait clairement déclaré que le divorce des employés entraînerait un licenciement, et que Tara, elle lui a donné un ultimatum, soit il quitte sa femme, soit ils n'étaient plus ensemble. Chris a promis à Tara que les papiers du divorce étaient prêts et que sa femme serait signifiée le lendemain à l'approche de la date limite que lui avait fixée Tara. Et au début du 5 mai 2009, les meurtres au domicile de Chris Coleman se sont déroulés, conduisant à son arrestation et à être le principal suspect. Il purge actuellement sa peine à l'établissement correctionnel de Dodge Wapun dans le Wisconsin. Le procès très médiatisé a commencé en avril 2011. Là enfin, il va quand même admettre avoir une liaison avec Tara. Cependant, il va plaider non coupable du meurtre de sa femme et de ses fils. Chris a été reconnu coupable de 3 chefs de meurtre au premier degré. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et perpète, c'est perpète. En 2014, Chris a fait appel du verdict, mais sa condamnation a été confirmée. L'histoire de Chris Coleman et des meurtres de la famille Coleman est quelque chose d'inexplicable tellement elle est horrible. Cela peut être décrit comme un enchevêtrement de croyances, d'obéissance à sa patronne, de liaisons d'adultère, de fausses promesses et d'horreurs qui pousse un homme au pied du mur à éliminer mais toute sa famille et même ses deux fils. La famille de Christopher Coleman a organisé des funérailles pour les victimes le 9 mai à Chester, mais la famille de Sherry, vous vous en doutez, n'a pas voulu et a fait dans une morgue à Eastdale dans l'Illinois, une banlieue de Chicago, pour une visite séparée de l'autre famille le 11 mai. Bien sûr, Christopher Coleman n'était pas invité. Une famille de Riverside en Californie a été totalement assassinée vendredi dernier pendant Thanksgiving. Elle a d'abord été ligotée, bâillonnée avec du scotch par leur meurtrier prédateur, dira un voisin. Les grands-parents de cette famille sont Mark, 69 ans, Shari Winnick, 65 ans et leur fille Brooke, 38 ans. Ils ont tous les trois été tués dans leur maison, puis leur maison va être incendiée et leur petite fille de 15 ans kidnappée. Elle a été kidnappée par un ex-policier de Virginie qui l'avait totalement catfichée sur Internet. Alors catfiche, ça veut dire quoi ? C'est quand une personne se fait passer pour quelqu'un d'autre. Là, en l'occurrence, on peut imaginer qu'elle adolescente avait 15 ans et que le policier de 28 ans, déjà on sait qu'il avait changé son identité, donc il n'a pas donné son vrai nom et qu'en plus, il a probablement baissé son âge parce que 28 ans, 15 ans, ça faisait trop d'écart. Donc c'est ça, un catfish, c'est quand une personne se fait passer pour une autre personne. Donc ce flic avait catfiché cette jeune fille. Et là, la suite est encore plus folle. Je vais vous raconter tout ce que vous voulez savoir sur cette histoire parce que vous allez voir, il va se passer plusieurs choses. Et comme je vous l'ai dit, ça vient juste d'arriver la semaine dernière pendant Thanksgiving. Un voisin, Sergio Gutierrez, a déclaré qu'il avait vu plus tard, malheureusement, les trois corps de ses voisins transportés hors de la maison par les secouristes et il avait remarqué qu'ils étaient ligotés et bâillonnés. Il dira « J'ai regardé avec des jumelles parce que je m'inquiétais énormément et depuis la fenêtre arrière de ma maison, j'ai vu mes voisins qui étaient liés dans le dos. La dame avait du ruban adhésif sur la bouche. C'était effrayant de voir ça si près de chez nous. » Mais quel est le fou qui vient de faire ce carnage dans cette maison ? C'est un ancien soldat, Austin Lee Edwards, 28 ans, qui est maintenant policier. Il aurait donc tué ses trois adultes, embarqué une adolescente dans sa voiture rouge et accéléré sur une autoroute en direction de l'Est. Gutierrez, le voisin, a déclaré que quelques semaines plus tôt, il avait repéré cette voiture, une Kia Soul rouge, garée dans la rue près de la maison. Il pense que ce prédateur surveillait peut-être ses victimes depuis un moment et c'est totalement effrayant, je trouve, de savoir ça après coup, que le voisin avait vu la voiture et que donc ce cinglé était là depuis des semaines peut-être à les observer. Le voisin dira... Il y a quelques semaines ou un mois, j'ai vu une voiture rouge. Cela avait l'air suspect. Je pense que c'est peut-être lui, mais je n'ai pas osé appeler la police pour si peu. Un autre voisin, Antonio Castro, a déclaré que l'adolescente avait également une sœur du même âge qu'elle et que les Winnick étaient une famille aimante et gentille pour tout le monde. Les médias sociaux de l'adolescente kidnappée disent qu'elle était une danseuse passionnée et membre active des réunions et fêtes de son lycée. Et oui, parce que vous comprendrez que cette jeune fille qui n'a que 15 ans, eh bien pour l'instant, son identité est tenue secrète et je trouve ça normal, donc on n'a ni son nom, ni sa photo, c'est pour ça que je ne vous en mettrai pas. Le bureau du shérif du comté de Washington a publié lundi une déclaration décrivant Edwards comme un homme méchant, violent, et le shérif présentera ses condoléances à la famille des survivantes. Le bureau du shérif a aussi déclaré qu'Edwards avait terminé sa formation à l'académie de police en janvier de cette année et avait travaillé comme soldat dans l'état de Virginie auparavant. Ils l'ont embauché comme patrouilleur le 16 novembre dernier, donc c'est vraiment quelques jours avant qu'il commette l'irréparable. Il est choquant et triste pour toute la communauté des forces de l'ordre qu'une personne aussi perverse et méchante puisse infiltrer les forces de l'ordre tout en cachant sa véritable identité de prédateur informatique et de meurtrier, dira le shérif. Nos pensées et nos prières vont à la famille Wickett, à leurs amis, aux officiers et à tous ceux qui ont été touchés par ce crime odieux, dira-t-il aussi. Un GoFundMe pour la famille a collecté plus de 31 000 dollars ce lundi, dédié au soutien des deux adolescentes survivantes. Parlons des victimes. Mark Winnett était un père, un grand-père, un oncle, un frère, un voisin et un entraîneur aimant à l'école secondaire d'Arlington. Shari Winnett était une mère, une grand-mère, une sœur et une tante douce, attentionnée, qui adorait passer du temps avec sa famille. Et là, pour le coup, c'est unanime parce que dans toutes les recherches que j'ai faites, j'ai vu des dizaines de témoignages de voisins, de personnes de la famille qui disent que c'était vraiment, mais vraiment un couple adorable. Quant à Brooke Winnett, elle était une mère célibataire de 38 ans, bien aimée, avec un grand cœur, et elle était très proche de ses deux filles, dont l'adolescente de 15 ans qui a été kidnappée. Une amie proche et voisine de la famille Winnett, Bonnie Davis, a déclaré au DailyMail.com qu'elle était dans son jardin en train de couper la dinde de Thanksgiving lorsqu'elle a vu de la fumée provenant de la maison de ses voisins. Elle dira « Je coupais ma dinde et mon jambon à l'arrière de la maison quand j'ai vu de la fumée. J'ai appelé le 911. J'étais apeurée. J'ai vu les flammes sortir par le devant des fenêtres et les portes. » Bonnie Davis a également déclaré qu'elle n'avait pas entendu de coup de feu, suggérant que le kidnappeur n'avait peut-être pas utilisé d'arme à ce moment-là. En tout cas, elle n'a rien entendu. Cette femme de 59 ans a déclaré que les Winnett étaient devenus comme une famille lorsqu'elle a déménagé il y a 22 ans dans cette voie sans issue. « Ils étaient ma famille, dira-t-elle. Quand nous avons déménagé ici avec mon fils, ils nous ont accueillis à bras ouverts. Chaque quartier a besoin d'une famille comme eux. Ils sont une famille foncièrement américaine, aimante, attentionnée et solitaire. » Elle dira même qu'à la mort subite de son mari, elle s'est retrouvée toute seule avec son fils. Et le grand-père, il venait, mais toutes les semaines, lui tondre sa pelouse gratuitement depuis 8 ans sans jamais rien lui demander. Elle dira qu'il avait le cœur sur la main. Elle aura également des mots féroces pour le kidnappeur et meurtrier. Elle dira « Ce fils de connard qui a fait ça n'a aucune idée de ce qu'il a retiré de ce monde. Ce salaud est venu ici, il leur a fait ça inutilement. Il n'y avait aucune raison à cela, aucune. Je n'arriverai jamais à comprendre son geste. » Lundi après-midi, elle a tenu à lire une déclaration aux journalistes en mémoire de la famille parce que vraiment, vous le voyez là, elle tenait énormément à ses voisins. Elle dira « Je veux juste que tout le monde sache qu'ils étaient une famille très aimée dans la communauté. La famille Winnett m'a dit qu'elle tenait à remercier tout le monde pour son soutien et son amour et sa patience car elle vit en ce moment une période horrible. Mark, Shari et Brooke aimaient les gens et ne méritaient vraiment pas cette tragédie. Je vous mets une photo. Sur cette photo, vous voyez Madison Kay qui est à gauche. Elle était l'une des étudiantes de softball de Mark Winnett. Elle a rendu un hommage au grand-père décédé en disant que depuis qu'elle avait quitté l'école, il lui envoyait à chaque jour de fête un SMS pour prendre de ses nouvelles. Il ne lâchait jamais ses anciens élèves. Les journalistes disent « Nous traitons toujours les nouvelles informations fournies par les autorités et nous parlerons plus en détail lors d'une conférence de presse en collaboration avec le département de police de Riverside la semaine prochaine. » Donc moi, je vous tiens au courant s'il y a d'autres détails, mais vous allez voir que déjà aujourd'hui, l'affaire est close. Je vais tout vous dire, on continue. Comment cela s'est-il passé ? D'après les autorités, elles disent qu'Edward a rencontré la jeune fille en ligne et a obtenu des informations personnelles sur elle en la trompant. Il a pris une fausse identité, il a caché son âge et a commencé à instaurer comme une sorte de liaison romantique. En fait, c'est comme je vous ai dit au début, il a fait un catfish, mentant sur lui et sur tout pour ne pas qu'elle se méfie. Tout d'un coup, il a décidé de la rencontrer en personne. Et il a fait plus de 4000 km pour se rendre à sa maison. Il travaillait à l'époque avec le bureau du shérif du comté de Washington, qu'il a qualifié de personne diabolique et méchante. Le shérif dira « Il a tué une grand-mère, un grand-père et une mère pour avoir sa main sur une adolescente, la kidnapper et dans son esprit de fou, faire d'elle tout ce qu'il voulait. » Pendant ce temps, à ce jour, les autorités continuent d'enquêter sur la mort de ses grands-parents et de la mère, car on ne sait pas tout à fait s'ils ont été tués avant ou pendant l'incendie de la maison. C'est-à-dire, est-ce que Ce fou les a tués et a mis le feu à la maison, ou est-ce que malheureusement, comme ils étaient ligotés et bâillonnés, ce sont les flammes qui auraient eu raison d'eux, on ne sait pas encore. La police de Riverside a déclaré qu'elle avait été appelée ce jour-là pour la première fois juste avant 11h du matin le vendredi pour vérifier le bien-être d'une jeune fille qui semblait bouleversée en montant dans une Kia Soul rouge avec un inconnu selon un voisin. Il s'agissait d'Edward. Alors que les agents intervenaient sur les lieux pour vérifier, la police pendant ce temps-là a commencé à recevoir des appels concernant un incendie à quelques maisons de là. Le service d'incendie de Riverside a découvert malheureusement 3 adultes allongés dans l'entrée principale et les a emmenés tant bien que mal à l'extérieur où le personnel de secours a déterminé qu'ils étaient victimes d'homicide. La cause de l'incendie fait l'objet bien sûr d'une enquête, mais semblait avoir été allumée par ce fou, a déclaré la police. Et les autorités ont rapidement découvert que la fille décrite dans le contrôle initial des policiers alertés avait vécu dans cette maison avec sa mère et ses grands-parents. À ce moment-là, les policiers vont recevoir une description très précise du véhicule d'Edward et d'autres agents à proximité. Tous les policiers sont au taquet du taquet, il faut retrouver cette jeune fille de 15 ans qui a été kidnappée. En quelques heures, la police a pu retrouver la Kia d'Edward alors qu'il conduisait l'adolescente à Kelson, une zone du comté de San Bernardino. Une folle course-poursuite va commencer entre Edward et les policiers, mais c'est la réalité et c'est ce qui est horrible, mais pourtant on dirait un film typiquement américain. Donc la course-poursuite va commencer et pendant la poursuite, Edward a tiré sur les policiers. La volée de coups de feu a frappé le véhicule du SWAT à plusieurs reprises. Edward a perdu le contrôle de son véhicule et la poursuite a pris fin lorsqu'il a quitté la route. La victime, l'adolescente, est sortie du véhicule en courant. Elle a été secourue immédiatement par des adjoints du shérif. Bon, Edward, lui, il va aussi sortir du véhicule, mais il va pointer son arme sur l'hélicoptère du shérif et les adjoints vont lui tirer dessus. Il n'a pas eu le temps de riposter et il sera décédé sur les lieux. Maintenant, les amis et les membres de la famille se sont tournés vers les médias sociaux pour se souvenir des Winnek et vont leur rendre hommage. Ils les ont décrits comme des incontournables de la communauté. Ils étaient toujours là pour aider les autres, déclarant tous les habitants du quartier. Ils veulent juste que tout le monde sache à quel point ils étaient aimants, adorables et qu'ils ne méritaient vraiment pas cela. Les voisins ajouteront qu'ils ont du mal à manger, qu'ils ne dorment plus, qu'ils se sentent en insécurité dans leur quartier et qu'ils repensent tout le temps à leurs voisins décédés et qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. C'est une histoire qui a passionné les États-Unis malgré le caractère horrible des meurtres et qui aujourd'hui fascine encore le monde. Les meurtres de la famille Watts ont fait même l'objet d'un documentaire choc sur Netflix et de nombreuses vidéos. Alors que Chris Watts, cet horrible personnage, le père et mari, a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa femme enceinte et de leurs deux filles, la maison où vivaient le couple et leurs enfants serait devenue un lieu de curiosité car elle est peut-être hantée. Revenons sur le 13 août 2018. Chris Watts a commis là-bas l'irréparable et c'est un faible mot. Ce jour-là, le père de famille considéré comme un père modèle a tué sa femme enceinte de 15 semaines et ses deux filles. Il dira qu'il s'était disputé, disant ne plus aimer sa femme et il a mis fin à la vie de ces 4 personnes. Oui, parce que moi je compte aussi l'enfant dans le ventre de la mère. À savoir que les corps de sa femme et des deux filles ont été retrouvés sur les lieux de travail de Chris Watts. Les fillettes étaient cachées dans une citerne huileuse de carburant et sa femme enterrée dans le désert. Puis, bien que lui crie son innocence, l'enquête va démarrer. On apprendra aussi qu'il avait eu une liaison. Il fut enfin arrêté, condamné. Mais maintenant qu'il est en prison, revenons au sujet principal de la vidéo, la maison. La maison est en vente et libre depuis plusieurs années, mais elle ne trouve pas acquéreur. Et oui, la maison est libre depuis plusieurs années, depuis le massacre, sans trouver preneur. Un magazine explique que la demeure de 8 chambres est estimée à 645 000 dollars. L'adresse, bien sûr, sur le site a été modifiée pour éviter que les curieux de l'histoire ne prennent rendez-vous pour la visiter avec de mauvaises intentions. Il y a même certaines personnes qui s'arrêtent devant la maison en balade et prennent des photos, des selfies, tandis que d'autres ont même tenté de rentrer par réfraction dans la maison pour faire un genre d'urbex maison hantée. La maison a été hypothéquée automatiquement, mais aucune offre n'a été faite. Faute d'acheteur, elle a été retirée de la vente et techniquement appartient encore à Chris Watt. Il y a le buzz autour du document Netflix, mais en arrière-plan de cette histoire, les internautes vont décortiquer certaines images, certaines vidéos du documentaire et y voir des choses étranges. En 2018, il va y avoir déjà les voisins qui vont appeler la police parce qu'ils vont dire qu'ils ont vu une femme rentrer par effraction dans la maison une nuit. Alors que cette maison est censée être inhabitée, on est bien d'accord. Naturellement, les policiers vont se rendre sur place. Ils vont trouver les lumières du garage allumées. Ce sont des lumières qui s'allument automatiquement, vous savez, par détection de mouvement. Également, ils vont faire une vérification à l'intérieur. Il n'y a personne dans la maison. Sur la vidéo, on constate que les policiers n'ont pas l'air rassurés. Alors, certains internautes, bien sûr, diront que c'est parce que l'ambiance de la maison est malsaine et qu'elle fait peur, parce qu'elle serait, comme je vous l'ai dit, hantée, ou peur à cause du massacre qui avait eu lieu avant. Mais rationnellement, je pense qu'on peut dire qu'ils étaient plutôt sur le qui-vive, car s'il y avait un ou une intruse, ce n'est pas rassurant, ils doivent bien faire leur métier, tâcher que la personne ressorte et sans encombre. Je pense que c'est plus cela.
Yourself, no. Frederick Police Department, anybody in the house?
I got you on. Okay. Coming out.
Open the connecting door.
En tout cas, ils ne trouveront personne et on ne saura pas qui ou quoi a déclenché les lumières de la maison et pourquoi les voisins disent qu'ils ont vu une femme et certains internautes diront que c'est le fantôme de Shannon. Vous me direz ce que vous en pensez. Il y a une autre vidéo qui va être décortiquée par le biais des internautes. C'est quand l'ami de Shannon et Chris vont rentrer dans la maison avant qu'ils ne soient arrêtés. Certains disent que l'on voit dans l'escalier une enfant qui monte les marches. C'est très rapide, ça fait comme une ombre. Ce serait sur l'escalier tout à gauche. Comme vous avez les images, là aussi vous pourrez vous faire une idée vous-même. Personnellement, moi je vous avoue que j'ai vu les images et que je ne vois rien de vraiment probant, concluant. Puis une autre vidéo bizarre. Les policiers vont venir dans la maison quand ils n'ont pas encore arrêté le mari. Ils ne le soupçonnent pas vraiment et ils vont demander de faire voir les images de caméras de vidéosurveillance de la maison. Et quand ils vont allumer la télé, il va y avoir une publicité sur l'écran. Certains internautes vont y voir le message de l'au-delà de Shanna pour son horrible mari. Sur l'écran, on verra un fœtus représenté dans le ventre de sa mère. Et d'ailleurs, Chris se retournera en le voyant et dira que sa femme était enceinte. Il avait l'air mal à l'aise, mais sûrement aussi parce qu'il y a la présence des policiers et que lui, il n'a pas la conscience tranquille. Les internautes analyseront aussi que dans la publicité, on voit une lampe à huile qui explose. À savoir que Chris, malheureusement, avait mis ses deux filles dans un conteneur, une citerne d'huile de carburant. Les internautes constateront également que l'explosion a l'air d'avoir lieu dans un désert. Comme je vous l'ai dit, on a retrouvé sa femme morte dans un trou dans le désert. Comme par hasard, cette publicité finira avec une tête de mort. Pas besoin de vous préciser à quoi ça fait penser. Et là, je vous ai gardé le pire pour la fin. Personnellement, de toutes les vidéos, c'est celle qui m'a fait le plus frissonner parce qu'on a l'image mais aussi le son. Il y a aussi des images de deux femmes policières avec un chien renifleur qui retournent dans la maison. Eux, ils veulent inspecter le placard de Shannon. Dans le placard, il y a des vêtements et les policiers vont clairement entendre le rire d'une petite fille. L'un des officiers a dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était ?» Dans cette vidéo de l'unité des chiens renifleurs, dans le placard de Shannon Watts, franchement, là je vous le dis, j'entends clairement le rire. Je vais vous le passer plusieurs fois. Il n'y avait pas d'enfants, pas de jouets qui font pouet-pouet ou de magnétophones qui se déclencheraient. Nous n'avons aucune explication à donner pour ce rire d'enfant. Les internautes diront que c'est les petites filles de Chris et Shannon qui revenaient de l'au-delà pour parler et que ça les faisait rire de voir les chiens renifleurs. Puisqu'on le sait, les enfants aiment les animaux. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà cette vraiment horrible histoire déjà de la famille Watts est finie. Et puis ma vidéo sur cette maison peut-être hantée est finie. Dites-moi déjà si vous saviez qu'il y avait toutes ces rumeurs sur la maison des Watts. Et dites-moi ce que vous en pensez. Quelle est pour vous, de tout ce que je vous ai montré, la vidéo ou l'image qui vous a le plus glacé le sang? Moi, c'est vraiment quand on entend le rire d'enfant dans le placard. Parce qu'alors oui, je l'entends. Et on n'a aucune explication rationnelle à donner à cela. S'il n'y avait aucune raison d'entendre un enfant rire dans le placard, mais dites-moi ce que vous en pensez. Vous en conviendrez, puisqu'aujourd'hui, il y a la Miss qui est venue avec nous et qui est restée tout le temps de la vidéo. Vous allez me laisser un emoji pour cette ratoune, un emoji chat. Si vous ne l'avez pas encore fait, mais abonnez-vous pour m'encourager et m'aider. D'ailleurs, je veux tous vous remercier pour votre gentillesse, votre soutien et vos commentaires. D'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Pensez à regarder derrière vous si vous allez visiter une maison hantée. Bye bye !